Donc ce soir, on va parler du tantra et on va parler du tantra sous l'angle d'une de ses caractéristiques principales, c'est la conscience. Et on va voir ce soir que la conscience, c'est un mot un petit peu à redéfinir, un petit peu large. Chacun a sa définition, mais on va faire un peu le tour d'horizon de ce que le tantra peut nous amener en termes de conscience, parce que tout le reste, c'est des conséquences, hein, c'est la conscience d'abord. Voilà, donc cette soirée, elle n'est pas grave ni sérieuse, hein, ce n'est pas parce que c'est une conférence que c'est sérieux, c'est des choses très simples, hein, ce que je vais dire. C'est aussi une conférence interactive, ça veut dire que si à un moment, une phrase qui n'est pas claire, vous pouvez m'interrompre, et puis je reformule ça, hein. Peut-être que parfois ça demande clarification pour vous. Il y aura un espace de questions-réponses, mais on n'est pas obligé d'attendre cet espace pour poser une question. Et puis ce que je vais vous dire ce soir, ça représente ma vérité, ça représente mon expérience, mais ce n'est pas la vérité, ni l'expérience absolue, hein. Chacun a la sienne. Donc libre à vous de penser différemment, si votre vérité est autre. Hein. C'est juste ma vision du tantra que je vais vous exposer. Juste pour l'histoire, mon expérience en tantra a commencé il y a une quinzaine d'années. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'avais comme un rendez-vous avec le tantra. La première femme à qui j'ai proposé de faire le premier exercice de ma vie avec m'a dit non. Et parce qu'elle m'a dit non, quelques heures plus tard, ou je ne sais pas, ou un jour plus tard, c'est un peu flou, je suis rentré dans une extase immense, un truc incroyable, un bonheur indicible. Je me suis senti très très libre. En moi, il y avait « tout est possible ». Alors pourquoi ? C'est pas facile à dire, mais avant, le non était vécu comme une catastrophe pour moi. Et ce jour-là, j'ai réalisé que le non n'était plus une catastrophe. Je suis allé voir une autre femme, j'ai fait exercice avec une autre femme. Après, j'ai réalisé que j'étais libre et ça m'a entraîné sur quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je peux approfondir en privé pour ceux qui veulent, mais ce que j'en ai retenu, moi, c'est que l'univers m'a fait goûter, m'a donné un apéritif, hein, m'a donné un échantillon du tantra et m'a dit « Tu veux savoir ce que ça procure le tantra ? Tiens, vas-y. Hein. » Vas-y, goûte à ça, et puis ensuite, va l'enseigner. C'est ce que j'ai fait assez rapidement, parce que j'avais envie de partager cette belle expérience que j'ai vécue. Voilà, alors, après cette introduction, je vais dire qu'est-ce que c'est que le tantra, et puis peut-être aussi, je dirais, qu'est-ce que ce n'est pas que le tantra. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas le tantra. J'ai des personnes qui m'appellent « Allô, j'ai des problèmes d'érection, est-ce que le tantra est valable pour moi ?» Je leur dis que je ne suis pas sexologue et que le tantra n'a pas pour but de résoudre les problèmes sexuels. Mais c'est récurrent. Hein. Les personnes de nos jours qui associent le tantra et la sexualité sont très très nombreuses. Ça peut faire des groupes, hein, où on gagne beaucoup d'argent. Le sexe, voilà, ça peut faire vendre aussi. Le tantra, c'est pas ça. Le tantra, c'est, il y a 10 000 ans, un texte qui parlait de 112 méditations dont le but était de faire grandir la conscience. C'est ça, à l'origine. Hein. Aujourd'hui, c'est encore ça. Et il y a quelques petites choses qui se sont rajoutées, qu'on appelle le néo-tantra. Mais en gros, c'est un texte qui tient en 3 pages à 4, 112 méditations qui tiennent chacune en une ou deux phrases et qui disent développe ta conscience au moyen de cette méditation. Donc chacune est différente, chacune peut vous parler plus ou moins qu'une autre. Il est dit qu'il y en a une de ces 112 qui s'adresse spécifiquement à vous, mais que vous avez à trouver laquelle c'est en pratiquant. Parce que le tantra, c'est une science de l'expérience. C'est-à-dire que on ne peut pas faire du tantra en lisant des livres. On peut faire du tantra seulement en pratiquant, en faisant des expériences, parce qu'il se base sur le ressenti. Et le ressenti, il ne vous sera jamais communiqué par un livre, n'importe quel livre. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai choisi une méditation qui n'était pas trop compliquée. Il y en a qui sont assez costauds. La méditation numéro 94, elle dit cela. Regarde un objet, puis lentement, retire ton regard. Ensuite, retire ta pensée et deviens le réceptacle de la plénitude ineffable. Voilà, en deux phrases, il dit quand même beaucoup de choses. Regarde un objet, puis lentement retire ton regard, ensuite retire ta pensée, et deviens le réceptacle de la plénitude ineffable. Donc, ce n'est pas juste une phrase à lire et à comprendre, hein, c'est une phrase à pratiquer. Lorsque vous regardez un objet, il y a tout de suite dans le cerveau des associations. Il est telle couleur, il est haut, bas, telle matière, il y a tout de suite des associations. Si vous le regardez d'une manière brute, sans associer le mental, c'est ce qui est un peu demandé dans cette pratique, retire ton regard, soyez juste dans la présence de cet objet, et ensuite retirez la pensée et vous devenez présence à la conscience. Voilà. Alors ça demande de la pratique. Parfois, il faut un mois, deux mois, trois mois de pratique sur une seule méditation pour comprendre, pour vivre ce dont elle parle. Voilà, donc on va parler de la conscience et je vais vous mettre un petit peu à contribution parce que les versions sont tellement variées, différentes, selon les personnes, mais aussi selon le mode, est-ce que c'est la science qui définit, est-ce que c'est le dictionnaire, voilà. Il y a une phrase de Socrate, qui a été reprise par Socrate, mais qui n'est pas de lui, hein, elle figurait au seuil du temple de Delphes, en Grèce, hein, et cette phrase, la plupart d'entre vous la connaissent, « Connais-toi toi-même », et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, on peut dire que Socrate parlait de conscience hein, dans cette phrase-là. Voilà. Mais peut-être avez-vous votre idée sur la conscience. Maintenant, si vous savez, vous avez votre définition de la conscience, on peut simplement l'exprimer. Hein, juste, voilà, vous parlez à haute voix, même si deux parlent ensemble, ben, vous reparlez juste après. Hein. Qui a envie de dire qu'est-ce que c'est pour lui ou elle la conscience?
Pour moi, la conscience, c'est la présence à soi. C'est la conscience qui est derrière, voir ce qui me concerne moi dans ma vie. C'est, je vois en fait les scénarios qui se répètent dans ma vie, les choses qui se répètent, et je sens en fait le regard derrière la conscience qui est derrière.
Ok.
Et je sens en fait, en tant que conscience, le blocage, en fait, les blocages que peuvent engendrer ces situations que je rencontre, qui m'empêchent d'être présent.
D'accord.
Super. Voilà, on essaie de le dire en une ou deux phrases. S'il y en a d'autres qui ont leur version, oui.
Pour moi, la conscience, c'est le témoin.
La conscience, c'est le témoin, je répète pour le micro. Ok, super. D'autres? Oui.
Pour moi, c'est être éveillé.
Être éveillé, ok, super. La perception, d'accord. D'autres?
L'observation bienveillante et sans jugement de tout ce qui est.
L'observation bienveillante et sans jugement de tout ce qui est. Ok. Autre chose?
Alors pour moi, être présent ici et maintenant.
Être présent ici et maintenant, ok. Oui. Autre chose? Rien, ça va être le sujet, hein. Tout là, on va essayer de sortir de cette pièce en sachant un peu plus sur la conscience que lorsqu'on est entré. Mais chaque chose qui a été dite ici a son importance. Voilà, alors je vais vous dire la définition de Wikipédia. Alors attention, il faut respirer. Hein. La conscience est, du point de vue de certaines philosophies et de la psychologie, la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, par exemple sous forme de sensations, ou intérieurs, état émotionnel ou pensée, et plus généralement sa propre existence. Voilà. Donc, vous voyez que Wikipédia, qui est bon, quelque chose d'un peu universel sur la Terre, place la conscience en tant que faculté mentale, hein, c'est-à-dire dans le cerveau, parce que le mental a son siège dans le cerveau, a priori. Alors, la conscience, c'est pas facile à définir, parce que selon le point d'observation, les avis divergent. Quand je dis « j'ai conscience de », qu'est-ce que je dis ? Quand je dis « je suis conscient » ou « inconscient », qu'est-ce que je dis ? Quand je dis « je perds conscience », hein, j'emploie aussi le mot « conscience », ou « je prends conscience », ou « j'ai conscience de mes émotions », ou alors « j'ai conscience de la souffrance dans le monde », ou si je dis « la conscience individuelle », « la conscience collective » ou « l'inconscient collectif », ça apparaît dans plein de sens différents, hein, dans notre monde. Et pour la science en particulier, la conscience, c'est la faculté de se reconnaître soi-même dans un miroir. C'est comme ça qu'ils ont prouvé que les grands singes, les éléphants, les baleines, les dauphins avaient la conscience d'eux-mêmes, parce que dans un miroir, ce n'était pas un autre dauphin, mais ils ont prouvé qu'ils se reconnaissaient, c'était eux. Pour l'éléphant, c'était très rigolo, parce qu'ils ont mis un éléphant qui avait une banane sur sa tête devant un miroir, et l'éléphant a pris la banane sur sa tête. Donc il savait que c'était lui. Donc c'est assez fin comme façon de procéder. Donc la science, bah, elle est ce qu'elle est, elle définit les choses. Et pour les humains aussi, hein, quand on se voit dans un miroir, à partir d'un certain âge peut-être, hein, nous savons que ce n'est pas un autre humain, nous savons que c'est nous. Et voilà, pour la science, même si c'est sujet à controverse, la conscience est logée dans le cerveau, hein. C'est ce que disait Wikipédia. Voilà. Alors, la conscience, pour moi, hein, elle peut se révéler lorsqu'il y a une attention extrême portée dans un endroit du corps ou à une perception des sens. Par exemple, vous mettez les deux mains devant vous, là maintenant, et puis vous mettez toute votre attention sur la main droite. C'est un petit exercice facile. Et puis, vous gardez votre attention, votre conscience sur la main droite, et à un moment donné, peut-être vous semblera-t-elle plus lourde, ou plus présente, ou plus importante, ou plus... je ne sais pas quoi, mais plus quelque chose. Qui expérimente ça? Juste levez la main si vous expérimentez que la main droite gagne en importance. Hein. Ok, voilà. Alors, ça, c'est la conscience corporelle. Hein. Je peux mettre ma conscience dans le lobe de mon oreille droite, dans mon gros orteil gauche. La conscience, c'est comme un faisceau laser que je dirige dans une partie de mon corps, et qui fait que cette partie du corps devient plus perceptible. Hein. C'est pareil avec nos yeux. On a une zone focale dans l'œil. Si je regarde la lampe de gauche, ben, je vais la voir beaucoup plus précisément que tout le reste, parce que dans mon œil, il y a quelque chose qui a une focale, hein, qui c'est un point qui perçoit beaucoup plus nettement. Alors on peut dire que notre conscience, c'est l'équivalent, mais qu'on dirige où on veut dans le corps, au niveau corporel. Je peux mettre une attention focalisée sur un endroit du corps ou sur une perception des sens. Tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez ce gong totalement. Hein. Et là, votre attention était placée sur la perception du son. Et si vous avez fait ça entièrement, tout le reste, la fontaine qui coule, avait moins d'importance au niveau perception que le gong. Hein. Et donc, on peut dire que cette perception-là, elle a gagné en conscience. Imaginez qu'on soit tous les 20 ici, ou à peu près, totalement en silence, et que à un moment donné, y ait un petit bruit, mais tout petit, hein, si on est sur une chaise, la chaise qui craque, tout le monde va l'entendre amplifié 10 ou 20 fois, parce que nous sommes attentifs. Hein. Quand nous sommes attentifs, ce qui est perçu est amplifié, hein, 10 ou 20 fois. Ceux qui font de la méditation passive, hein, comme je l'organise de temps en temps, savent que pendant le silence, l'écoute est très différente. Hein. S'il y a un voisin qui passe dans la rue, même quelque chose de très très infime, je vais pouvoir l'entendre. Voilà. Ça, c'est la conscience quand on l'aperçoit dans le corps. Maintenant, la question, c'est est-ce que la conscience est dans le corps, hein ? Je vais essayer aussi de répondre à ça. Mais il y a aussi la vision de la spiritualité, parce que ça ne s'arrête pas à la science, à chaque définition qui est propre à chacun. Pour la spiritualité, la conscience, elle est extracorporelle. Ça veut dire que la conscience utilise le corps comme un outil. Hein. Et cet outil, il est utilisé pour mener à bien des expériences qui servent à améliorer la conscience de vie en vie, parce que dans la spiritualité, on parle de réincarnation. Donc, dans cette vie, la conscience choisit un corps, choisit des expériences, et accumule des expériences dans le but de s'améliorer. Et puis, lorsque le corps est usé, entre guillemets, elle va, entre guillemets aussi, fabriquer un autre corps et continuer de manière à continuer l'amélioration. Et c'est ça ce qu'on appelle l'expansion de la conscience, qui est le sujet du texte du Tantra. Celui qui a les 112 méditations, son nom d'origine, c'est Vijnana Bhairava Tantra. Et ça veut dire technique d'expansion de la conscience, hein, tout simplement. Est-ce que tu pourrais baisser un peu le thermostat tu le mets sur W, hein, ouais, excuse-moi, ou quelqu'un d'autre. Hein. Je vois que le chat est bien à l'aise, là. En bas, il y a un petit bouton, tu le mets sur W, comme ça, il s'allumera un peu moins souvent. Oui.
Tu peux reprendre le choix d'un corps, le choix...
Le choix d'expérience aussi varié que possible, qui passe par toute la gamme des émotions humaines, aussi bien les choses dramatiques que les choses extatiques. Pour la conscience, il n'y a pas de jugement que c'est bon ou pas bon. C'est pour l'être humain que c'est difficile ou agréable. Mais pour la conscience, même ce qui est désastreux, angoissant, a une utilité pour améliorer la conscience. Par exemple, quand j'expérimente quelque chose dont je ne veux pas, ça me sert la prochaine fois pour choisir autre chose. Donc c'est utile, hein, même si c'est jugé négativement. Et pour la conscience aussi, hein. Si je choisis dans cette vie d'être violent avec mes semblables, si je choisis l'incarnation d'Hitler, hein, par exemple, je choisis une violence absolue, génocide, je choisis une expérience extrême, je vois à la fin de cette vie où ça m'a mené, hein, quel enseignement j'en ai tiré. Est-ce que je suis devenu un être meilleur, plus en conscience, plus aimant, ou pas, hein? Et donc, Hitler a non seulement fait cette incarnation pour lui, mais pour l'ensemble de l'humanité, puisque à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'évolutions de conscience, l'ONU a été créée, il y a eu beaucoup de choses qui ont signifié « plus jamais ça ». Et donc, cette expérience de conscience de cet homme a servi à quelque chose pour améliorer la conscience des êtres humains dans le reste. Bon, alors c'est extrême, hein, mais n'importe quel... si vous êtes dans un couple et qu'on vous claque la porte en disant « fous le camp avec des noms d'oiseaux », voilà, cette expérience émotionnellement négative pourra vous permettre de réfléchir qu'est-ce qui est de mon ressort dans cette relation. Si vous retrouvez exactement la même chose avec le futur ou la future partenaire, vous vous posez encore d'autres questions. Pourquoi je reproduis ça, hein? Est-ce que ça ne me concernerait pas, ce qui se reproduit d'expérience en expérience? Donc, c'est ça. La conscience pour la spiritualité, c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin, qui est intemporel et infini, et qui se déplace d'une vie à l'autre en utilisant des centaines de véhicules d'expérience, et ces véhicules sont le corps humain, pour s'améliorer, devenir encore plus consciente d'elle-même. C'est réflexif, hein. C'est une des seules qualités qu'on a qui est réflexive. La conscience s'observe elle-même, hein, consciente d'elle-même. Voilà. De temps en temps, je fais quelques secondes de respiration, comme ça, s'il y a une question qui vient ou une réflexion, vous pouvez les poser.
Je voulais juste signaler qu'il y a un livre de yoga qui s'appelle « Le jeu de la conscience » de Swami Muktananda. Je ne peux pas dire pourquoi ça se rapproche du sujet, mais c'est pour un livre de spiritualité où justement, je crois, il dit qu'en fait, tout est interaction et qu'on est responsable et qu'on choisit en effet ce qu'on vit.
Super, oui. Et donc, le tantra, c'est une voie de spiritualité, c'est une voie non-duelle qui dit que tout est un, que tout est en conscience. Et la conscience n'est pas l'apanage seulement du tantra. Hein. Toutes les disciplines spirituelles parlent de faire grandir la conscience pour que notre vie serve à quelque chose. Hein. Parfois, dans une vie, on ne va pas la faire grandir, on va faire des expériences qui sont... jugées négatives, mais en contrepartie, d'autres vies humaines vont bénéficier d'expansion de conscience. Voilà, et puis on peut imaginer facilement qu'il existe aussi des consciences de groupe. Hein. Je parlais tout à l'heure de la conscience de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale. À l'échelle d'une famille, on peut aussi sentir qu'il y a une sorte d'entité à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, d'une planète. C'est un peu comme le caractère, le niveau de liberté d'une ville ou d'un pays. On peut dire qu'il y a des villes où on se sent plus libre que d'autres, hein, ou des pays qui sont plus accueillants. La Suisse a-t-elle son niveau de conscience? Voilà. Donc on peut parler d'égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de consciences qui forment une conscience collective, à des échelles plus ou moins grandes. Hein. Et il y a un égrégore humain, planétaire. On peut parler de conscience collective humaine, on peut parler d'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est des choses dont on n'a pas conscience, mais qui agissent en nous et au niveau de toute l'humanité, qui sont partagées par tous les humains. Ouais, des choses qui s'engramment dans l'inconscient collectif. Hein. Par exemple, l'histoire de l'abus chez les femmes, le viol, c'est quelque chose qui est engrammé collectivement dans l'inconscient. Hein. C'est-à-dire qu'une femme, même si elle n'a pas subi de viol, elle a ça en elle. Elle porte cette conscience de l'abus. Alors, à quoi ça sert la conscience pour le tantra? Le tantra, c'est une science d'expérience. Ça veut dire qu'on va expérimenter des exercices dans un groupe de tantra. Le seul but des exercices, c'est retrouver notre véritable nature, et notre véritable nature n'est pas conditionnée. c'est notre société qui conditionne l'être humain, qui dit « fais ci et pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien hein. ». Et l'idée du tantra, c'est de revenir à notre origine au niveau nature, une nature profonde, entrer dans l'intimité, dans les retrouvailles avec ce qui est profondément nous-mêmes, ce qui n'est pas altéré par les conditionnements. Et les conditionnements, au fur et à mesure des centaines de milliers de générations, ils se sont accumulés en nous et ils ont fait qu'on a perdu progressivement notre innocence, notre faculté d'être vrai en face d'une situation donnée. Parfois, on va réagir en fonction du culturel, hein, qui est une sorte de conditionnement. Parfois, on va réagir en fonction de ce qu'ont dit les parents, de ce qu'a dit la religion, de ce qu'on dit à l'école. Et puis, ce qu'on pense nous-mêmes, ça vient parfois en tout dernier, ou parfois ça ne vient pas du tout. C'est ce que j'appelle notre intimité profonde ou les retrouvailles avec nous-mêmes. Donc, dans le tantra, on va essayer de retrouver quelque chose de non conditionné, on va essayer d'être plus libre avec les centaines et les centaines de conditionnements qui sont dans notre esprit et qui ont été insérés au fur et à mesure des milliers d'années de l'humanité, parce que les parents transmettent aux enfants, les prêtres transmettent aux disciples, les maîtres aux élèves, etc. Donc ça ne se passe pas seulement en l'espace d'une seule génération, mais ça s'accumule en une sorte d'héritage hein, dans ce domaine-là. Voilà, donc l'intimité des retrouvailles avec nous-mêmes, elle est favorisée dans le tantra par l'intimité avec les autres. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on partage une intimité de lieu. Hein. On partage tous le même lieu, on partage une intimité d'intention. On est tous là pour écouter et vivre un exercice de tantra. On peut avoir une intimité de parole. Hein. L'intimité, ce n'est pas forcément on va se frotter. Hein. C'est une intimité de regard, une intimité d'énergie, de toucher. Et ça peut être aussi une intimité corporelle. Donc, le tantra, c'est avant tout approfondir l'intimité avec vous-même. Et comme c'est difficile de le faire seulement avec soi, parce qu'on n'a pas d'exemple en face, ben on utilise l'autre pour voir ce que c'est que l'intimité avec soi. L'autre nous sert d'une certaine manière de miroir. Hein. Il y a des choses que je vois chez l'autre plus facilement, mais je les vois chez l'autre seulement parce que j'y suis sensible. Et donc, l'autre me sert de miroir. Je ne peux pas voir, par exemple, la beauté chez quelqu'un ou quelque chose si je ne porte pas la beauté à l'intérieur de moi-même. Si je ne suis pas sensible à la beauté, ben, je vais passer devant une personne sans la remarquer. Le mec qui est belle, hein, qui est considéré comme belle, je vais passer sans y faire attention, sans mettre la conscience sur cette beauté-là. Si je ne supporte pas l'avarice, alors il y a quelque chose en moi qui contient l'avarice, hein, même si c'est parfois difficile à accepter. Il y a quelque chose qui est sensible à l'avarice ou à la mesquinerie, et donc c'est parce que je l'ai en moi que je suis réactif à l'avarice de l'autre. Si je n'ai pas ça en moi, ça va être complètement neutre. Hein. Quelqu'un d'avare ou de mesquin, je me dirais, bah, dis donc, il doit souffrir drôlement pour s'agripper tellement à l'argent. Cet homme-là ou cette femme-là. Hein, ça me laissera relativement neutre. Je me rince là, comme dit l'autre. Qu'est-ce qu'on rigole ? Voilà, donc l'intimité avec nous-mêmes, elle est favorisée par l'intimité avec l'autre. C'est pas pour rien qu'il y a des couples sur la Terre. Ça peut pour rien que ces couples, pour la plupart du temps, se forment entre hommes et femmes. Hein, parce que on va, d'une certaine manière, projeter ce dont on a envie sur les qualités que l'autre nous montre. Hein, ou on va utiliser les qualités de l'autre pour dire « Ah oui, c'est ça que je veux. Hein, » Et c'est comme ça qu'on s'attire mutuellement. Si l'autre n'a pas ce que vous voulez, en termes de ce qui vous complète ou ce qui vous rend heureux, il ne va pas vous intéresser. Vous allez passer votre chemin. Donc, dans le tantra, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur l'intérieur en utilisant l'extérieur. C'est ça la démarche du tantra, fournir des miroirs, fournir des déclencheurs pour que les choses se réveillent en vous, s'approfondissent en vous. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, tout à l'heure dans l'exercice, vous en aurez un aperçu dans l'exercice en fin de soirée. Voilà. Et dans le tantra, ce qu'on fait, c'est rajouter une couche de conscience à tous les actes et toutes les perceptions de la vie. Absolument tout. Tout ce que je fais en conscience peut changer ma vie radicalement. Ça paraît peut-être prétentieux, ça paraît peut-être étonnant, mais la conscience a une importance fondamentale dans comment vous êtes libre, comment vous êtes aimant, comment vous êtes heureux dans la vie. C'est pas pour rien que les disciplines spirituelles parlent toutes de faire grandir la conscience. Quand on dit « soyez plus aimant, soyez plus généreux », on ne peut pas être généreux et inconscient. Inconscient, ça veut dire « je fais n'importe quoi, je suis dispersé, je coupe la parole aux autres, je suis violent, je laisse les instincts primaires s'exprimer, j'abuse de l'autre voilà, ». C'est facile de définir l'inconscience, c'est un peu plus dur, difficile de définir la conscience. C'est pour ça que la totalité des 112 préceptes du Tantra parle de conscience, parle de perception. Il y en a 3 sur les 112 qui parlent de sexualité ou d'énergie sexuelle. Ça fait 3%, à peine, un peu moins même. Donc, on peut un peu rééquilibrer le credo habituel sur qu'est-ce que c'est que le Tantra. Le Tantra, c'est être davantage conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je sens, de ce que je perçois. Et ça, tout le temps, en permanence. Personne n'y arrive en permanence. Il y a des zones de blanc, il y a des zones d'oubli. Et nous naissons dans l'oubli de qui nous sommes. Et le but de notre vie, c'est de nous rappeler cette conscience immense que nous sommes. Et on le fait par petites étapes. La fameuse extase dont je vous ai parlé au début, c'est de 3 mois, ça a été une expansion subite de ma conscience. Tout d'un coup, tout était possible à l'intérieur de moi, alors que j'étais quelqu'un de timide, de réservé, qui ne savait pas parler aux femmes. Tout d'un coup, il n'y avait plus aucune limite dans aucun domaine. Je ne me sentais pas limité. Et c'était très étrange parce que je suis venu au stage de Tantra, qui était le premier de ma vie. Je suis venu avec une question qui était « Comment séduire les femmes ?» C'était il y a longtemps, c'est fini. Et je ne suis pas sorti de ce stage avec une réponse, mais il n'y avait plus de questions. À la fin du stage, il n'y avait plus la question. Je ne me posais plus cette question parce que j'avais simplement à m'écouter moi-même dans l'état de conscience dans lequel j'étais. Et en m'écoutant moi-même, avec la liberté dans laquelle je me suis retrouvé, c'était extrêmement facile d'aborder les femmes et n'importe qui d'autre. Et puis, les femmes à qui je parlais, c'était très fluide. Il y avait quelque chose de magnétique parce que j'étais très très connecté à moi-même. Voilà, ça s'est tari, mais l'envie de grandir en conscience est restée. Comme je dis, c'était une sorte d'échantillon qui avait pour but de me donner le goût de ce que c'est qu'une conscience qui grandit. Qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours? Ça va? Ça vous parle? Vous avez des expériences dans votre vie sur « Ah là, j'ai été inconscient, là, j'ai été vraiment conscient de ce qui se passe, de ce que j'ai ressenti. » Quelqu'un a un exemple à donner?
Personnellement, moi, j'ai plutôt des exemples de là où je ne suis pas consciente.
vous dire, j'ai encore fait ça sans,
oui,
sans être vraiment présent.
Les exemples d'inconscience sont aussi importants que les exemples de conscience. Quand j'ai conscience que j'ai été inconscient, j'avance. Parce que je mets de la lumière dans une zone d'ombre. La conscience, c'est de la lumière, une certaine lumière. J'éclaire mes comportements. Ah oui, là, j'aurais pu être plus délicat quand j'ai dit que ça ne me convenait pas, ce qui a été fait avec moi, quand je l'ai accusé de... voilà, j'aurais pu dire... ce que tu as fait, je l'ai ressenti, c'était difficile pour moi. Hein, et là, je ne blesse pas l'autre. Mais si je dis, ça ne va pas, c'est affreux ce que tu m'as fait vivre, ne recommence jamais ça. Voilà. Deux manières d'exprimer une réaction à une même situation. Je parle de moi, et c'est forcément à moi que ça parle, puisque une autre personne... peut-être serait restée complètement neutre, hein, parce qu'elle n'est pas blessée autant que moi, ou pas aussi réactive. Donc, quand je m'aperçois que j'ai été inconscient, je le suis déjà moins. Alors, c'est fantastique. Hein. Et dans le tantra, on apprend autant à repérer nos zones d'inconscience que nos zones de conscience, parce que si on était tous conscients, il n'y aurait plus de groupe de tantra. Alors, bien sûr que ça s'adresse aux personnes qui sont partiellement inconscientes. Prenez la nourriture. Hein. Je peux manger de manière avide et gloutonne sans vraiment goûter la nourriture. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement faim que mon seul... J'ai la survie, là, mon petit cerveau reptilien qui me dit « mange ou tu vas mourir ». Je m'empiffre et je mange jusqu'à ce qu'il y ait la satiété. Et là... ça va mieux. 4 Big Mac et ça va mieux. Par exemple. Ou alors, je peux savourer chaque miette de mon repas en goûtant vraiment le goût de la nourriture et prendre un plaisir intense à goûter tous les goûts différents qu'il y a sur la table. Hein. Et là, la sensation de manger, de goûter, s'amplifie. Hein. J'ai mis de la conscience dans le goût. Et dans l'autre cas, il n'y avait pas de conscience dans le goût. Il y avait juste, je réponds à quelque chose d'instinctif, de primal, de reptilien, hein, de survie. Mais parfois, il n'y a pas besoin de survie pour manger inconsciemment. Hein. Vous mangez, vous regardez en même temps un film, vous n'êtes pas dans le goût de ce que vous mangez. Vous parlez à quelqu'un d'autre en mangeant, vous auriez pu manger du poulet, des nouilles ou de la pastèque, ce serait pareil parce que vous n'étiez pas attentif à l'expérience de manger. Cela dit, je n'ai pas de jugement hein, sur ces moments d'inconscience parce qu'on est là pour aussi les expérimenter. Quand je touche, hein, je peux toucher l'autre en étant complètement absent au toucher, hein, ou en utilisant l'autre pour mes propres fins. Hein, ça s'appelle de l'abus. Hein, ou en étant complètement perdu dans mes pensées, en pensant à ce que j'ai fait aujourd'hui. J'embrasse quelqu'un, mais je ne suis pas du tout dans le bisou. Je ne suis pas du tout dedans. Je suis en train de penser à l'instant d'après, par exemple. Ou alors je peux mettre toute mon attention, toute ma présence dans un toucher délicat qui honore la présence de l'autre et qui fonctionne dans la lenteur. Et dans ce cas-là, ce toucher-là devient sacré. Hein, et la conscience est associée à ce qui est sacré. Alors le sacré n'étant pas un terme religieux, hein, c'est tout ce qui s'élève et la conscience... c'est des vibrations en nous qui s'élèvent, c'est-à-dire je deviens meilleur. Le sacré, c'est le meilleur porté à son paroxysme, porté au maximum. Donc grâce à la présence que je mets dans mes mains, dans mon corps, dans le toucher, ce que je touche devient sacré pour moi, c'est-à-dire a une plus grande valeur. La nourriture aussi a une plus grande valeur, la présence de l'autre aussi, ma parole aussi, voilà. Quand j'écoute de la musique, je peux l'écouter en étant tout à fait présent ou tout à fait absent, ou entre les deux. Hein, ça peut être un bruit de fond où je peux ne même pas me rappeler du morceau que j'ai écouté juste avant. Ou alors je peux fermer les yeux, écouter avec toute ma présence, toute mon attention, en écoutant chaque note de musique séparément, et j'en fais une expérience exceptionnelle. Hein. Et l'expérience de l'écoute devient sacrée. C'est clair, hein, ce que c'est que la conscience. C'est ce qui fait la différence entre une expérience banale et une expérience qui a une haute valeur, ou qui a plus de valeur. Plus je mets de conscience, plus il y a de la valeur dans ce que je fais. C'est pareil, hein, je peux échanger un regard avec quelqu'un furtif. Je te regarde, ou alors je regarde un passant dans la rue, un dixième de seconde, et hop, je passe à quelqu'un d'autre. J'étais pas là, hein, j'étais pas vraiment là. Ou alors je peux être complètement présent. Et dans le tantra, il y a des exercices où on essaye d'être pleinement présent dans le regard. Hein. Apprendre à mettre toute sa présence, toute son attention dans le regard, sans pour autant constituer une menace pour l'autre. Dans ma parole, je peux être confus, je peux être dispersé, ou alors je peux avoir une parole authentique exceptionnelle. Hein. Là, il y a eu des paroles de témoignages sur ce que c'est que la conscience, qui étaient des paroles authentiques, qui venaient d'expériences de vie. Hein. Et puis, je peux dire aussi des choses complètement inconscientes, des choses qui rabaissent l'autre. Voilà. Donc, si j'ai une parole bien connectée et authentique, je mets du sacré hein, dans l'expérience de la parole. Vous voyez que la zone d'application de la conscience, elle est dans tous les champs de la vie humaine, absolument tous, dans la perception et dans nos sens. Hein, globalement, quand vous conduisez votre voiture, vous pouvez être inconscient, énervé, impatient avec les bouchons, pressé d'arriver, vous allez refuser les priorités, vous allez voir que vous collez les voitures. Ça vous dit quelque chose? Bon, je le fais aussi. Moi, je vois que quand je suis pressé, je ne conduis pas du tout pareil. Hein, je me dis, mais pourquoi il roule aussi lentement celui-là? Et vous pouvez conduire en conscience, même dans les bouchons, hein, en appréciant le paysage ou en profitant du temps qui se dégage pour faire une petite méditation ou pour faire un bilan de ce que vous vivez dans la vie de tous les jours. Donc conscience en voiture, la plupart des problèmes et des accidents de voiture sont dus à l'inconscience. Hein. S'il y avait de la conscience chez chaque conducteur, il y aurait zéro accident sur la planète. Zéro. Hein, parce que tous les accidents, c'est à un moment donné, j'ai oublié que je roulais vite, ou j'ai oublié de regarder dans un rétro, j'étais pas présent. Hein, au moment où je parlais au passager qui est derrière, voilà, des choses comme ça. Dans la relation amicale, dans la relation amoureuse, dans la relation de couple. Je peux être égoïste ou violent quand je suis inconscient, quand je suis inconscient de mes difficultés, quand je suis inconscient de ma souffrance. C'est généralement ça qui fait que je ne vais pas prendre soin de l'autre. Hein, ou je vais laisser parler ma souffrance plutôt qu'être à l'écoute des besoins de l'autre. Hein, et donc je vais être centré sur moi, être plutôt égocentriste. Ou alors je peux, dans une relation, être super attentionné, super présent, à chaque instant de la relation. Par exemple, ce soir, ma chérie, on prend un temps pour nous, il y a des chandelles, il y a un repas cuisiné avec amour, il y a une jolie nappe. Vous voyez le sacré, hein? Et c'est saturé, l'espace est saturé de conscience, hein, dans ce moment-là. Ça peut se faire au restaurant, ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire l'espace de 5 minutes, hein, n'importe où. Mais l'expérience de manger à deux peut être fondamentalement différente en fonction de quelle attention et quelle intention vous mettez sur cette, sur cet épisode de votre vie. Votre respiration. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Je ne sais pas s'il y a un seul domaine de la vie où ce n'est pas possible de rajouter de la conscience. Peut-être le sommeil ou les rêves, parce que le sommeil est une forme d'inconscience. Je n'ai pas conscience ni du temps qui passe, ni de ce que je fais, ni des images, ni des personnages pendant que je dors. Mais certains... arrive aussi à entrer consciemment dans le sommeil et dans les rêves. Donc, c'est un domaine dans lequel on peut s'entraîner à rajouter de la conscience. Donc, ce que je fais dans le tantra, ça sert à modifier mes expériences en leur donnant une valeur plus grande parce que j'y rajoute une couche de sacré. Et quand j'ai donné une valeur plus grande, il y a quelque chose qui est satisfait profondément à l'intérieur de moi et qui voudrait que la vie soit avec ce sacré-là tout le temps. Et donc, on fait dans les groupes de tantra une sorte de rappel sur regarder à quel point c'est bon pour soi-même d'être plus conscient. Regardez comment dans votre vie c'est possible d'améliorer la couche de conscience que vous mettez sur les événements de la vie en général. C'est pour ça que dans le tantra, on ne fait qu'une seule chose à la fois. Mais on la fait totalement. Et totalement, c'est un mot que vous pouvez entendre souvent dans mes groupes de tantra, parce qu'on essaye d'imprégner complètement de conscience l'expérience du moment. On la fait totalement. Si on regarde l'autre dans les yeux, on le fait totalement. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose en même temps. Si on respire totalement. Ça veut dire qu'on sent l'air entrer, on sent l'air sortir. On remplit ses poumons en sentant les poumons se remplir. Quand vous faites une seule chose à la fois, c'est facile de mettre l'attention sur cette chose. Quand vous faites plein de choses, vous êtes dispersé. Il y a une petite couche d'attention qui est là, qui est là, qui est là, mais la conscience est dispersée aussi. Et donc, sur Terre, on parle de niveau de conscience. Un criminel a un niveau de conscience très bas. Une personne, je dirais, qui n'est pas dans la spiritualité, dans un monde sans pour autant être néfaste aux autres, elle a un niveau de conscience un peu plus élevé. Une personne qui a nettoyé la plupart de ses blocages émotionnels, traumatismes du passé, voilà, celle-là, elle a un niveau de conscience qui est encore plus grand, sa faculté à aimer est plus grande. Et puis après, il y a les sages, les grands maîtres qui ont un niveau vibratoire ou un niveau de conscience très élevé de manière à ce qu'ils attirent magnétiquement des millions de personnes. Les grands maîtres sur Terre ont eu cet impact grâce à la sagesse et la conscience qu'ils émanent. La conscience est associée à la liberté intérieure, elle est associée à la capacité à aimer et à être aimé. Elle est associée à l'attention que vous mettez à faire ou vivre les choses. Et dans ton temps, on utilise plus le corps que le mental pour faire des expériences. On utilise l'énergie corporelle davantage parce qu'elle est moins conditionnée que l'énergie mentale. Donc on va pouvoir, quand on danse par exemple, vous avez vu tout à l'heure, que dans la danse, le corps n'émet pas de jugement. Hein, c'est le mental qui peut limiter la danse. Mais si le corps est laissé à lui-même, dans ce qui lui fait plaisir, bah, la danse est simple, elle est facile aussi. Donc, dans Tantra, on essaye d'écouter le corps davantage, et puis plus on donne d'importance au corps, moins le mental est sollicité, et moins les conditionnements sont là. Hein. Donc, le corps a une certaine intelligence. Un enfant africain de 2 ans, vous lui mettez une belle musique de percussion, instinctivement il va danser, hein, parce que ce n'est pas ses neurones hein, qui lui disent de danser, son corps sait danser, et nous savons tous danser comme ça. C'est juste qu'on nous a dit, ça ne se fait pas, pas dans le métro, pas devant tout le monde, voilà, pas de cette manière, pas trop expansif, etc. Mais le petit enfant, il s'en fout, hein, il n'a pas encore ces couches-là. Donc le corps a une certaine intelligence, et dans le tantra, on fait appel à l'intelligence du corps pour se rappeler de ce qui est naturel. Il y a des choses qui sont naturelles, mais qui ne s'expriment pas dans nos vies parce que le mental nous dit « surtout pas ça, on m'a dit ça, on m'a dit ci », il y a des choses qui sont jugées, voilà. Donc, dans le tantra, on peut utiliser un petit peu de mental. Hein. Par exemple, quand je vais témoigner de mon expérience après un exercice 2 par 2, je vais dire à l'autre comment j'ai vécu mon expérience. Je fais appel un petit peu au mental, un peu au souvenir, mais ma parole authentique, elle est en conscience. Hein. Ce n'est pas de la discussion. Moi, je pense que, hein, et toi, tu penses autrement? Non. J'ai ressenti cela, ça ne se discute pas, c'est juste authentique, hein. C'est profond. Donc, on peut utiliser le verbal en conscience ou en inconscience. Et donc, dans le tantra, j'utilise, moi, des exercices qui font appel au verbal. Par exemple, un homme va voir une femme qu'il ne connaît pas, ou même un groupe de femmes, et puis il va raconter en toute authenticité sa toute première expérience amoureuse, celle qui l'a fait vibrer, et il va entrer dans les détails du ressenti, hein, du ce que ça fait dans le cœur, ce que ça fait dans la tête, voilà, et c'est riche d'expérience, hein, pour la femme ou les femmes qui écoutent. Un homme me raconte une expérience de son premier amour, ça peut être très touchant, hein, et c'est une expérience qu'on n'entend pas au bar du coin, entre le pastis et le kir. Hein. Donc voilà, c'est aussi dans la parole qu'on peut introduire une dose plus grande de conscience. Donc, si vous modifiez votre niveau de conscience, même un peu, immédiatement la vie change, immédiatement. Parce que tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites avec la conscience que vous avez du moment, que vous avez de vous-même. Tout passe par le filtre de la conscience. Donc la vie peut devenir plus équilibrée, les vrais désirs dans votre vie que vous ne satisfaisez pas en temps normal parce que c'est trop compliqué, ben, peuvent devenir plus faciles à satisfaire parce que tout d'un coup, la conscience que vous avez, elle favorise une vision claire, elle favorise une solution aux problèmes de la vie parce que vous êtes plus connecté. Et donc, quand vous faites grandir la conscience, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact dans votre vie et généralement, vous ne pouvez pas régresser parce qu'à partir d'un certain niveau de conscience, il y a une marge d'évolution qui est franchie, qui vous amène des bénéfices, et vous savez où vous étiez, et vous ne souhaitez surtout pas reproduire ces choses inconscientes d'avant. Hein. C'est pour ça que quand on tire un enseignement d'un couple qui ne fonctionne pas, ben, le prochain couple ne va pas ramener la même problématique, parce que ça y est, j'ai pris conscience, c'est moi, j'étais mendiant en amour, j'étais... J'étais en manque, je demandais tout à l'autre et j'apportais rien à la relation. J'ai compris ça. C'est ok, je passe à la marche d'après, hein, dans l'escalier de l'évolution ou de la conscience. Donc vous mettez de la lumière et puis à ce moment-là, les oui peuvent être des vrais oui, les non peuvent être des vrais non. Il n'y a plus de confusion entre le oui et le non. Hein. Parce que quand vous savez ce que vous voulez, c'est oui et puis c'est pas autre chose. Et quand vous savez ce que vous ne voulez pas, c'est non et c'est pas autre chose non plus. Hein. Ça devient plus affirmation, hein, affirmatif. Le non aussi est une affirmation. Une personne qui n'a pas assez de conscience sur savoir dire oui ou savoir dire non, ce qu'on travaille beaucoup dans le tantra, alors lorsqu'elle va dire oui parce qu'elle n'ose pas dire non, le résultat va être très confus, hein, parce qu'elle ne va pas se respecter, cette personne, et puis le résultat est catastrophique hein, parfois. Mais voilà, si je me respecte et que je dis un vrai non, par exemple, une femme qui va dire un vrai non à un homme, là, stop, hein, c'est pas ça que je veux. La fois où cette femme va dire oui, cet homme saura que c'est un vrai oui, parce qu'il a entendu un vrai non. Hein, et les deux donc sont en équilibre, hein, le oui et le non. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de confusion lorsque vous êtes centré sur vos vrais désirs. Et une des choses qu'on fait dans le tantra, c'est dire oui au vrai désir. Alors, pas à tout prix et pas dans n'importe quelle condition, évidemment, hein, j'en parlerai. Voilà, et puis, la relation amoureuse et sexuelle ont aussi beaucoup à gagner d'une conscience grandissante, parce qu'elles aussi deviennent sacrées. Les partenaires dans le tantra élèvent la valeur de l'autre à une valeur de dieu ou de déesse. Hein, c'est-à-dire, pour l'heure ou les deux heures qui viennent, tu as une valeur maximale pour moi. Il n'y a personne d'autre au monde qui compte. Hein. Il y a toi et seulement toi. Dans cette relation, dans ce moment sacré que nous permettons de vivre, donc chacun élève la valeur personnelle de l'autre au maximum possible, et chacun, dans cette relation sacrée, donne le meilleur de soi-même. Et dans les exercices de tantra, on appelle ça des rituels, c'est souvent à la fin d'une journée, quand on a bien fait travailler la conscience, un rituel, c'est souvent deux par deux, mais pas forcément. Faire un exercice où l'autre a une valeur la plus grande possible. Hein. Même si dans la vie de tous les jours, je suis ci, ça ou ça, pour cet instant-là, la valeur est maximale. Et avec la générosité qui est possible, je donne le meilleur de moi-même à l'autre et je ne prends rien pour moi. Hein. Et dans une relation qui est une relation sacrée, une relation en pleine conscience, vous ne prenez rien à l'autre. C'est-à-dire que dans la sexualité, par exemple, vous n'allez pas utiliser l'autre. Hein, vous n'allez pas faire de l'autre un objet. Au contraire, vous allez donner et donner et encore donner. Et le simple fait de donner en conscience, vous allez recevoir de vous-même. Hein, parce que la conscience, elle se donne à elle-même. Hein. Vous vous donnez la permission de donner, donc vous prenez conscience que vous pouvez donner énormément. Et cela est très extrêmement gratifiant pour une personne qui l'apprécie. Donc, il n'y a plus d'avidité, il n'y a plus d'égoïsme, il n'y a plus de manipulation quand la relation devient sacrée. Même si c'est deux heures le samedi soir de 19h à 21h, je réserve une plage au sacré dans la relation. Et là, je mets l'autre sur un piédestal. Hein, il ne s'agit pas de gonfler artificiellement, hein, c'est dans ma vision, l'autre change. Hein, l'autre est éminemment valable. Hein, l'autre est comme si il avait aucun défaut. Le bien sans opposer, le meilleur sans opposer. Hein, c'est un changement de vision. Ce n'est pas l'autre qui change, c'est votre manière de le voir. La relation sexuelle, bah, elle change aussi parce qu'elle va ralentir pour mieux s'écouter soi-même, pour mieux écouter l'autre dans ses besoins. Ça devient une relation divine. Hein. C'est quoi une relation divine? C'est une relation dans laquelle vous pouvez ouvrir des mondes, des portes sur des mondes totalement inconnus de la sexualité classique. Pourquoi? Parce que sexe et conscience, c'est un cocktail qui est censé ouvrir des portes sur des univers que nous ne connaissons pas. Donc, je fais référence aussi à ce livre, hein, qui est Barry Long, L-O-N-G, et qui s'appelle « Faire l'amour de manière divine », et qui parle de la sexualité sacrée, changer de vision par rapport à la sexualité. Voilà, c'est une manière d'aborder la sexualité avec une autre vision. Hein. C'est pas réapprendre à faire l'amour, c'est mettre de la conscience et du sacré sur la relation amoureuse et sexuelle. Voilà, donc, oui. Faire l'amour de manière divine. C'est un livre qui est sorti en édition de poche, qui coûte 5 ou 6 euros. C'est un livre qui vaut son pesant d'or, qui est à lire et à relire et à relire et à relire, parce que vous le relirez certainement différemment à chaque fois.
Et à vos frères ?
Bien sûr. À un moment, j'en avais constamment 10 ici, parce que à chaque fois que des gens venaient, bah, ils m'en achetaient, et puis j'en recommandais 10. J'ai dû en vendre au moins 60. Là, j'en ai plus pour le moment. Mais c'est un livre qui est très riche. Qui est très riche parce que c'est un maître tantrique, donc ça parle du tantra. Appliqué à la relation, hein, et à la relation sexuelle, mais on peut appliquer le tantra à tout. Hein. Tout ce que touche le tantra devient sacré. Oui.
Qu'est-ce qui se passe quand les partenaires n'ont pas le même niveau de conscience? Si les deux n'ont pas fait un stage, par exemple, ou si... voilà.
Excellente question. Je répète pour micro. Qu'est-ce qui se passe si les deux partenaires n'ont pas le même niveau de conscience? C'est très rare que les deux partenaires aient le même niveau de conscience. Donc, on est là pour s'enseigner mutuellement des choses. Hein. Et donc, si je fais ceci et ceci te blesse, alors je t'ai servi à te montrer que tu avais encore de la réactivité à cet endroit-là. Sans moi, tu ne l'aurais peut-être pas su. Hein. Et donc, ça va servir, dans ce couple ou dans un autre, à élever le niveau de conscience de celui qui est blessé. Quelqu'un qui a un niveau de conscience élevé cohabite avec quelqu'un qui a un niveau de conscience un peu plus bas, bah, ne va pas se blesser aussi facilement avec une remarque, parce que les jugements glissent plus facilement, parce que les blessures ont été guéries, parce qu'il y a moins de réactivité, donc il y aura plus de pardon, hein, il y aura plus de compassion. Et la compassion aussi aide l'autre à avancer, le pardon aussi aide l'autre à avancer, parce que l'autre, il est accepté pleinement, malgré son apparent manque de conscience dans certains moments. L'autre est aimé totalement par quelqu'un qui est plus en conscience. Et puis, il y a des moments où, dans un couple, on a fait le tour des expériences qui étaient utiles pour la conscience, et on répète les mêmes choses, on ne s'apprend plus rien, et puis en toute humilité, on voit que c'est le moment où les chemins divergent, et on se quitte soit en se cassant la porcelaine sur la tête, ou soit en bons amis, hein, selon le degré de blessure qui est là à ce moment-là. Mais le couple est une voie d'apprentissage, une voie d'élévation de conscience. C'est une des plus fortes sur Terre, parce que on a un miroir très fort et puis on ne peut pas partir facilement. L'autre est toujours là le lendemain au petit déjeuner, hein, il est toujours là. Sinon, il faut faire appel à la manière forte. Oui.
Et l'attachement. Dans cette démarche-là, justement dans les problèmes de couple, peut être indépendant. La relation avec les niveaux de conscience, l'attachement formel notamment, autre chose. Mais je ne trouve pas, j'ai pas trouvé la modélisation. Ça m'emmerde dans la fin.
Oui, mais un mot sur l'attachement ou la jalousie, parce que c'est des sujets assez récurrents dans les couples. Hein. L'attachement, c'est un niveau de conscience qui fait ressentir que je ne suis pas complet sans l'autre, que je suis dépendant de l'autre, et qui est un constat d'un manque de liberté intérieure. Un manque de liberté, c'est aussi un manque d'amour pour moi-même, c'est aussi un manque de conscience à cet endroit-là. Je suis attaché à toi, ou je suis jaloux envers toi, à l'endroit où je crois que si tu pars, il va me manquer quelque chose. Je serai incomplet ou incomplète sans toi. Ce qui n'est pas vrai, fondamentalement, c'est pas vrai.
Quand on aime quelqu'un, on est attaché à lui, forcément.
Ou pas. Être attaché. Comment ?
Ça dépend de ce qu'on met dans le mot attachement.
Yes. Quand on attache une chèvre à un poteau, elle n'est pas réellement libre. Et là, on dit que la liberté, c'est la longueur de la corde. Alors, il y a toujours une corde, malgré tout, même si la corde est très longue. C'est une blague, hein, d'une certaine manière. Mais être attaché à quelqu'un, c'est pas exactement synonyme de l'aimer. Parce que l'aimer, ça devrait être, si on s'en tient à l'amour tel qu'il est, profondément, par sa nature, l'amour laisse l'autre libre, mais totalement libre. Dans l'attachement, il y a une partie qui, d'abord, en toi-même, ressent une certaine dépendance. Il n'y a pas d'autonomie affective totale et qui ne laisse pas l'autre complètement libre non plus. Alors bon, on est des humains et l'attachement, la jalousie... Et ce sont des choses humaines hein, que nous vivons pour la plupart. Mais
pour être... moi, la jalousie et l'attachement, la jalousie a vraiment quelque chose de négatif dedans. Mais dans l'attachement, ça peut être quelque chose d'être attaché à quelqu'un. Pour moi, c'est pas forcément lui ôter sa liberté. On peut être attaché à quelqu'un et le laisser libre de ses propres choix et de sa vie. Je vois pas. Tu mets les deux ensemble et pour moi, c'est pas, ça ne résonne pas la même chose.
En effet, ça dépend du sens de l'attachement. Si je suis attaché à toi, ça veut dire que tu es importante pour moi, tu es importante et tu es libre. Hein. C'est pas je te garde, attention si tu fais un pas de travers. Mais le vrai sens de attacher, regarde une chèvre qui est attachée, c'est quoi hein? Attaché, c'est qu'il y a une corde, quelque part. Je suis attaché à toi, ça veut dire qu'il y a un endroit où je ne te laisse pas, où je ne suis pas complètement libre par rapport à toi. Mais, alors dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser « tu es important pour moi hein, » ou « je t'aime profondément », ce qui n'a pas de double sens. Dans « attachement », ce n'est pas évident, hein, « je suis attaché ». Ah bon, ben pourquoi ? Détache-toi. Détache-toi. Être détaché de l'autre, ça ne veut pas dire ne pas l'aimer, ça veut dire ne pas être dépendant. Il s'en va un petit peu, c'est bien, je suis heureuse quand même, je suis libre quand même, il revient, oh, c'est bien aussi. Hein? Les deux sont bien. Il n'y a pas un manque à un moment donné. Le manque, c'est le manque de liberté.
La réciprocité n'est pas gagnée. Et d'autre part, il y a la symbiose, c'est la rupture symbiotique qui existe dans la nature. Mais la symbiose, l'attachement symbiotique est légitime. Et donc, pour moi, j'ai pas. Je suis dans cette.
C'est quoi l'attachement symbiotique ?
On va on parle d'émotionnel, hein, on ne parle pas de tout le reste. Hein, on parle de juste cette notion de dépendance dans le couple, qui se traduit par de l'attachement.
Oui, bah, je pense qu'au niveau relationnel, on a des processus de maîtrise.
C'est OK, je ne dis pas le contraire. L'important...
C'est un point important, la symbiose.
Certainement. L'important, c'est est-ce que je suis heureux avec ça ou pas. Et le tantra, c'est une voie de libération. Donc si je suis attaché et que ça me rend malheureux, bah, je vais essayer avec la conscience de me libérer de ce qui me rend malheureux. Si c'est l'attachement, bah, de l'attachement. Si c'est de la jalousie, de la jalousie. Si c'est de la dépendance à la drogue ou à l'amour de l'autre, c'est pas très très différent. Hein. L'autre, c'est le dealer qui me donne chaque jour ma petite dose et si je l'ai pas, ça va pas bien. Hein. Après, que ça se passe dans la vie, bah ok, c'est pas, moi je nie rien. C'est une voie de libération, le tantra. Donc on essaie de se libérer de ce qui entrave la liberté. C'est ok?
Oui, je suis complètement d'accord.
Bon, on va pas passer non plus toute notre soirée sur l'attachement, mais... c'est en quoi c'est relatif au niveau de conscience, hein, à la liberté et à l'amour. Amour, liberté, conscience, c'est une sorte de trio qui sont interdépendants. Hein. Je ne peux pas aimer vraiment sans être libre vraiment. Je ne peux pas être libre vraiment sans avoir le cœur ouvert vraiment. Je ne peux pas être aimant sans être vraiment conscient. Tout ça, c'est ensemble. Hein. C'est des déclinaisons. Il y avait une question ? Voilà, alors, donc élever le niveau de conscience, ça a un impact direct sur être aimant, être heureux, construire des relations harmonieuses. Hein, parce que dès qu'il y a de la conscience, avoir des choses qui rendent heureux, c'est beaucoup plus facile. Parce que réaliser ses désirs profonds, c'est beaucoup plus accessible. Hein, ça devient clair. Ah ben ça, c'est fini. Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans de ma vie. Terminé, hein, j'ai vu où ça m'a mené, c'est bon, ça a été utile, mais je ne recommencerai pas cette affaire-là. Hein. Quand ça vient à moi, je dis non merci, hein, quand il y a les mêmes sollicitations qui reviennent. Donc, Osho, qui est le maître tantrique qui a amené le tantra en Occident, O-S-H-O, il suggère que le tantra ne propose pas une évolution, mais une révolution. Parce que c'est tourner le regard, c'est un virage à 180 degrés. Au lieu de regarder à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Hein. Et c'est ça la vraie signification du tantra, c'est tourner le regard à l'intérieur pour voir ce que je fais, ce que je dis, ce que je perçois, voilà, et le conscientiser davantage. Et la phrase que j'ai mise dans la présentation par mail, c'était « Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est comment nous le faisons. » Et ça, ça peut résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je peux faire une chose d'une manière abominable et je peux faire la même chose d'une manière sacrée et hautement valable. Prenez l'argent, hein, vous pouvez... utiliser l'argent avec perversion, alimenter le crime, la prostitution, voilà, avec ce pouvoir que représente l'argent, cette énergie que représente l'argent, et vous pouvez aussi aider les orphelins, construire des écoles. Voilà, c'est pas ce qu'on fait, dans les deux cas c'est dépenser de l'argent, mais comment et pourquoi, hein, on fait ça et de quelle manière. Voilà, ça c'est tout pour la partie tantra conscience. On peut dire que c'est le fondement de ce qui va alimenter tous les groupes de l'année et ce qui a alimenté tous les groupes des années, des 15 années précédentes, puisque j'enseigne depuis une quinzaine d'années. Même si ça prend beaucoup de formes différentes, n'importe quel exercice va vous solliciter au niveau de avec quelle conscience tu le fais. Et si vous faites un exercice 20 fois, vous pourrez le faire 20 fois avec un niveau de conscience différent et vous vivrez 20 expériences différentes. Et c'est ça le sens de cette phrase. Ce n'est pas ce que nous faisons qui importe, mais comment nous le faisons. Est-ce que je vais être totalement présent, 60% présent, 10% présent, etc. Donc il peut y avoir des petites séquences de questions-réponses, si c'est nécessaire, sur ce qu'on vient de dire ou sur des questions concernant le tantra, parce que peut-être je n'ai pas abordé des choses que vous connaissez dans le tantra, je n'ai pas non plus tout dit, hein. Mais n'importe quelle question qui est là en suspens dans votre esprit ou dans votre tête peut être posée parce que ça peut profiter aux autres et aussi à tous les auditeurs qui écoutent. Avec le temps, il y a environ 600 personnes qui écoutent ce qu'on dit ce soir. Donc ça a un impact, hein, ce qu'on dit ce soir ou les questions qui sont posées.
Moi, j'avais une observation. Tout à l'heure, tu disais, je repense à l'image par exemple du dîner, où tu disais dans le tantra, on donne tout à l'autre. Mais en tant que femme, et femme qui entend des couples, je remarque que des fois, il y en a un des deux dans le couple, et souvent les femmes, qui fait tout pour faire plaisir à l'homme et qui s'oublie elle-même. Et je voudrais dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même non plus.
Voilà, c'est ça. J'avais parlé de répondre à ses désirs profonds, hein, oui, comme étant un détail important, une caractéristique importante de ce qu'on fait dans le tantra, répondre à ses désirs profonds. Dans le tantra, il y a ce que moi j'appelle l'égoïsme positif. L'égoïsme positif, ça s'appelle « moi d'abord ». Pourquoi « moi d'abord » ? Parce que si je ne me nourris pas moi-même dans mes besoins profonds, je n'ai rien à donner à l'autre. Je suis à sec, comme un puits à sec. On a beau descendre des seaux, il n'y a rien qui remonte. Hein. Donc, je me nourris. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi d'abord. Lorsque je suis nourri, le puits est rempli, ça déborde. Il n'y a même pas besoin de descendre des seaux, ça déborde de partout. Tous ceux qui sont autour de moi en profitent. Mon partenaire en profite, ma partenaire, mon conjoint. Tout le monde en profite. Tout simplement parce que j'ai pensé à moi, je ne me suis pas sacrifié. Se sacrifier, c'est répondre à une souffrance intérieure, c'est répondre à quelque chose de déséquilibré, hein, qui dit « je n'ai pas d'estime de moi-même, moi je passe en dernier », ça répond à une souffrance. Donc dans le tantra, on désapprend qu'on devrait passer en dernier, on se fait passer en premier. Mais pas aux dépens de quelqu'un, hein. Il y a toujours ces limites-là qui sont conscience et respect de l'autre. Ça répond. Donc personne dans la vie, jamais personne ne vous demandera de vous sacrifier. C'est vous qui décidez de le faire. Et ça ne devrait pas être un choix que vous faites dans la vie, de vous sacrifier sans penser à vous, de donner à l'autre, sans d'abord vous donner à vous-même. D'accord ? Et quand vous donnez réellement, avec le cœur, dans cette démarche, vous vous donnez aussi à vous-même. Le simple fait de préparer une belle table, le simple fait d'acheter des cierges, de les allumer, d'acheter de l'encens, bah avant même que le dîner commence, waouh, c'est super agréable, parce que vous avez fait ça aussi pour vous-même. Hein, vous vous l'êtes donné à vous-même, ce sacré-là. Donc c'est la manière de le faire, que vous donniez à l'autre ou pas, ou à vous-même, c'est un peu la même chose. Donner et recevoir se mélangent, hein, dans la conscience pleine. Il y a une phrase qui est très belle, c'est « Dans le monde matériel, ce que je partage est divisé. » Si je partage 100 euros, je divise, hein, je ne les ai plus dans mon portefeuille. Hein, ça devient divisé. Si je partage un pain, ben, il y a une tranche pour chacun, c'est divisé. Mais dans le monde immatériel, ce que je partage se multiplie. Si je partage l'amour, je ne suis pas dépossédé de l'amour. J'en ai encore plus. Si je partage la conscience, je fais grandir ma propre conscience. Hein ? Si je partage le sacré, je fais grandir le sacré. Donc, on se place dans donner et recevoir sont la même chose, dans l'immatériel. Hein ? Et dans le tantra, on encourage de donner tout à l'autre, parce que de donner tout à l'autre, ça revient à donner, à se considérer soi-même comme très valable. Hein, et donc, on est aussi gagnant que l'autre, hein, dans donner tout. Mais il n'y a pas de sacrifice à faire, sinon c'est distordu. Hein, le sacrifice, c'est pas aligné, hein, comme méthode. D'autres questions ? Voilà, alors la question c'est une personne dans un exercice, par exemple de tantra, est consciente et l'autre en face n'est pas consciente. Comment être avec cette personne? C'est un peu la même chose que dans un couple, hein. Il n'y aura jamais le même niveau de conscience en face de toi. Alors ton niveau de conscience, s'il est assez aiguisé, tu vas déceler le moment où ce n'est pas juste pour toi ce qui se fait. Et tu vas pouvoir dire non au moment où ça devient plus que tu veux. Hein. Donc l'abus ou la perversion n'aura pas lieu, parce que tu auras dit stop. Et c'est grâce à ton niveau de conscience que tu dis stop. S'il n'y a pas ce niveau de conscience et qu'il y a confusion, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je vais laisser faire des choses qui ne me plaisent pas réellement, ben là je suis face à ma propre inconscience, qui m'empêche de dire un vrai oui ou un vrai non. Hein. Et l'autre m'a servi de modèle, de miroir, pour dire, eh ben, Clara, regarde, à cet endroit-là, il y avait un endroit pour dire non, mais toi, t'as oublié de dire non. Tu t'es pas respecté. Hein. Et donc, merci à l'autre de m'avoir mis ça en évidence. Donc, l'autre a servi à ça. Donc, il ne peut pas y avoir d'abus, s'il y a assez de conscience chez toi, il ne peut pas y avoir de choses qui ne te plaisent pas. Parce que bien avant, tu vas dire, ah là, c'est plus possible. Hein? Parfois, il faut que ça arrive à un seuil dans la relation très élevé pour dire, là, c'est plus possible. Mais c'est toujours une question de conscience. J'ai conscience que là, si je dis oui, je ne me respecte plus. Et c'est comme tout à l'heure, hein? C'est comme je ne me sacrifie pas pour l'autre. Personne ne te demandera de te sacrifier dans le tantra, hein, ni ailleurs non plus. Mais dans le tantra, on est encouragé à répondre à ses désirs profonds et intérieurs, mais pas aux dépens de soi-même, hein, mais pas aux dépens de l'autre non plus. Il n'y a pas à abuser de quelqu'un pour exprimer son désir. Celui qui fait ça en face, il est dans la conscience. Il t'utilise comme un objet, oui. Hein, mais ça peut arriver partout, dans la sexualité, dans la relation amoureuse, dans beaucoup de domaines. Hein. C'est pas seulement les groupes de tantra.
Et à ce moment-là, par exemple, dans un groupe de tantra, j'ai le droit de dire non, de dire stop et d'arrêter.
Exactement, parce que ça va venir par la suite, ça fait partie du cadre du groupe de tantra. Le cadre d'un groupe de tantra, il est dit à chaque groupe, c'est respectez-vous et respectez l'autre. Ne vous forcez pas et ne forcez pas l'autre. Hein. Si tu respectes ces deux choses-là, il ne se passera jamais rien de grave émotionnellement. Hein. Alors, la conscience, c'est de se poser sans arrêt la question. Et maintenant, est-ce que je me respecte? Et puis l'autre, en face, je ne le force pas. Si je sens que le mouvement dans lequel je l'entraîne, il y a une résistance, ça ne vient pas, ce n'est pas fluide, j'arrête. Hein. Je ne force pas quelque chose qui n'est pas... Et l'autre aussi a son mot à dire, à dire non. S'il ne dit pas non, bah, ça le regarde aussi. Donc c'est une manière d'apprendre à se positionner également, et c'est important dans la vie de se positionner. Donc, je vais en profiter pour parler des règles de tous les groupes. Il y a trois règles principales, il y en a un petit peu plus, mais les trois les plus importantes, c'est ça. Respectez-vous et respectez l'autre. Non-jugement absolu, ça veut dire qu'on ne se juge pas parce qu'on est là pour se libérer. Donc, ça peut trouver des formes non conventionnelles, hein, de se libérer. Et on ne juge pas les autres quand ils se libèrent d'une manière qui est nouvelle pour nous, qui n'est pas habituelle. Et puis, la troisième, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu avec l'autre, hein, parce que l'autre n'est pas là pour me servir de partenaire amoureux ou de support de rencontre. Voilà, ce ne sont pas des groupes de rencontres. Hein. Les groupes de tantra sont des groupes de rencontres avec vous-même, hein, mais pas des groupes de rencontres avec l'autre, même s'il y a les mêmes nombres d'hommes et de femmes en général. Quand vous mettez un enjeu avec l'autre, vous passez à côté de la chose la plus importante, c'est ben, les retrouvailles avec vous-même et augmenter la conscience en vous. Parce que c'est quand vous mettez l'enjeu de rencontrer l'autre, d'obtenir son téléphone ou de sortir de la journée ou de la soirée avec une conquête, voilà, ben, vous avez baissé votre niveau de conscience plutôt qu'augmenté. Hein, et la relation, si elle se fait, ben, elle va en subir les conséquences. Ok, d'autres ? Puis je vais parler un peu du pratique maintenant, hein, de comment ça se passe, hein, parce que la théorie, ça va bien un peu. Et puis, dans les groupes de tantra, on essaie de se déconditionner l'esprit. Hein, ça veut dire qu'on essaie de penser par rapport à être détendu et naturel. Hein. Est-ce que je peux être détendu et naturel? Et comment faire pour être détendu et naturel en cette situation? C'est parce que le mental est conditionné que je suis tendu, et c'est parce que le mental est conditionné que j'ai oublié la vraie nature, qui est de danser comme mon corps le dit, et qui est de ressentir l'énergie comme mon corps la ressent, et de ne pas pervertir tout ça. Et puis, l'idée dans chaque groupe de tantra, c'est de ressortir plus libre que vous êtes entré, de vous diriger vers l'autonomie affective dans la relation avec vous-même et dans la relation aux autres. Hein. C'est déjà beaucoup, hein, ces trois choses-là. Voilà, et puis, pourquoi il y a autant d'hommes que de femmes dans les groupes de tantra? C'est parce qu'il y a un désir d'équilibrer les énergies. Vous voyez que à gauche, à droite, si vous avez le sexe opposé, ben, vous avez une sorte d'équilibre énergétique. Hein. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes énergies corporelles. Dans les chakras, ça change un petit peu. Et puis, le fondement du tantra, c'est unir le masculin et le féminin en vous pour arriver à une complétude, hein, pour arriver à une divinité intérieure. Réunir ce qui est apparemment séparé pour rejoindre la non-dualité, c'est-à-dire l'être un. Hein. L'être un, c'est la fusion du masculin et du féminin. Et donc, on utilise le support extérieur de la femme ou de l'homme extérieur pour s'adresser à la femme ou l'homme intérieur en vue de fusionner ça en nous. Hein. Et donc, on travaille avec des supports, hein, dans le tantra, à l'extérieur. Et puis, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché, je ne me rappelle plus qui l'a dite, mais elle s'applique très bien au tantra, et elle dit ceci, les êtres humains sont comme des îles qui sont séparées par l'océan. Apparemment, chaque île est indépendante des autres. Mais lorsque le niveau de l'eau baisse, ou lorsque chaque humain descend dans sa profondeur, il retrouve une connexion avec les autres îles. Et si l'eau disparaît, il n'y a plus d'îles. Ce ne sont que des pics. Hein. Des pics d'individualité, d'une même masse, d'une même conscience globale. Donc nous sommes des émanations d'une seule conscience qui s'individualise momentanément pour avoir le plaisir de retrouver le un. Ça, c'est la partie spirituelle du tantra. Donc on utilise, hein, cette métaphore pour sentir à la fois comme nous sommes séparés et à la fois comme dans la profondeur, nous sommes connectés les uns aux autres. Dans la profondeur, nous ne sommes pas différents les uns des autres. Il n'y a que en superficie que nous paraissons différents. Donc, Voilà, on joue un peu avec les îles hein, de temps en temps, dans le tantra que j'enseigne. Donc, dans les groupes de tantra, je propose des énergies, des exercices qui sont basés sur le verbal ou le corporel, ou l'énergétique, hein, comme des opportunités à chaque fois pour engager davantage de liberté. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez danser socialement ou vous pouvez danser librement. Et quand je dis mettez plus de liberté dans la danse, vous pouvez dire, ah ouais, tiens, je pourrais m'écouter davantage, tiens, comment faire pour m'écouter davantage. C'est à peu près ça qu'on fait dans les exercices, s'écouter davantage et faire l'exercice en étant vraiment connecté à notre vraie nature, à notre vrai désir, et aller dans ce qui est juste et bon pour soi, hein, et en oubliant les choses conditionnées qui nous disent « fais plaisir à l'autre », etc. Hein, des milliers de choses. Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante dans le tantra, c'est qu'on évolue dans une zone de non-jugement et de respect. C'est fondamentalement différent de Auchan à 18h, hein, ou du métro Opéra à 7h30 du matin. En quoi c'est différent? Il y a un cadre. Hein. Le cadre, c'est je me respecte et je te respecte. Hein. Tu es sacré, je suis sacré. Et donc, dans cet espace de non-jugement et de respect, tous les défis habituels de ce que vous autorisez pour vous ou de ce que vous interdisez pour vous n'existent pas vis-à-vis des autres. Ils existent vis-à-vis de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jugement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la consigne, c'est de ne pas vous juger. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la consigne, c'est de vous respecter, hein, que l'autre vous respecte. Donc, le jugement qui, à Auchan, se passe vis-à-vis des autres, ou dans le métro, si je crie très fort dans un métro, tout le wagon va me regarder. Hein, et donc, je ne le fais pas à cause de cette pression sociale. Mais ici, vous pouvez crier, hein, vous ne serez pas jugé pour autant. S'il y a de la colère et que vous voulez la libérer, c'est OK de crier dans un groupe de tantra. Donc l'enjeu, c'est plus on va me juger, c'est est-ce que je m'autorise ce cri ou pas, hein? Et c'est vrai pour tout le reste. Donc on change de système de valeurs. Hein? Je m'autorise ou pas en fonction de moi-même et plus en fonction des autres. Et c'est ce qui fait la différence entre le monde social et les groupes de tantra. C'est pour ça que vous avez le pouvoir de changer votre vie, c'est parce que ces décisions-là, vous les prenez par rapport à vous-même dans les groupes de tantra et plus par rapport aux autres. Donc le cadre qui est sécurisé, c'est pour permettre un climat de confiance dans lequel les autorisations intérieures peuvent se donner plus facilement. Ce que je ne fais pas à l'extérieur parce qu'il y a trop de pression, ici, je me dis, mais oui, c'est ça dont j'ai envie. Et pourquoi pas, si le cadre le permet, ben je m'autorise de le faire. C'est plus facile. Considérez que c'est une serre tropicale où vous pouvez tenter des expériences, c'est comme un laboratoire, parce que le but est de faire des expériences qui engagent plus de liberté. C'est ça. Et puis il y a cette autre belle phrase que j'aime bien, qui décrit le tantra, l'autre en tant que miroir est une manière d'utiliser le « deux » pour se rappeler qu'il n'y a pas « deux », pour se rappeler qu'en définitive, tout est un, hein, c'est la spiritualité. Il n'y a pas « deux », les îles ne sont pas séparées, hein, elles se touchent, elles sont ensemble, elles forment un seul bloc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice de tantra, hein, par exemple, dans la pratique? Un exercice que je donne pour les groupes débutants, hein, il est très simple, il peut être impliquant. Asseyez-vous en face de quelqu'un et regardez-le avec douceur dans les yeux pendant 20 minutes. Il peut se passer beaucoup de choses hein, pendant 20 minutes. L'autre peut être le miroir de choses difficiles pour vous. Vous pouvez ressentir de la gêne. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup d'authenticité, beaucoup d'admiration pour l'autre. Vous pouvez sentir que c'est quelqu'un d'une grande valeur pour vous offrir ce regard. Vous pouvez être touché et ému. Voilà, à chaque fois, ça parle de vous. Hein, à chaque fois, que ce soit dans le difficile ou dans le facile, ça parle de vous. Et au bout de 20 minutes, on échange ce qui s'est passé, hein, chacun pour soi. Et c'est rare qu'il ne se soit pas passé quelque chose d'intime et d'important. Hein. Donc, l'intimité par les yeux, c'est une manière de connecter le naturel en nous, le détendu en nous plus facilement. Hein. Ça, c'est un exercice. Un deuxième exercice va utiliser le bandeau. Et donc dans le tantra, on utilise beaucoup le bandeau. D'ailleurs, je vous ai demandé d'en amener un. Pourquoi on utilise le bandeau? Parce que on ferme les yeux pour ouvrir l'esprit. Hein. C'est un proverbe africain. Donc, quand je bande les yeux par lesquels passe énormément de jugement, y a le corps avec la sensorialité qui prend le relais et qui commence à développer plus la conscience de l'environnement, la conscience du toucher, la conscience des sens. Et là, par exemple, si vous mangez les yeux bandés, vous allez sentir beaucoup plus la nourriture. Hein. Là, l'expérience peut être très différente parce que il n'y a plus le jugement qui dit lui, oui, mais lui, pas question. Elle, super, mais elle, jamais de la vie. Voilà, c'est basé sur les yeux, hein, tout ça. Et donc, dans ces groupes, les yeux bandés, il va s'agir d'expérimenter le ressenti avec certaines consignes, hein, et qui vont toujours avec le cadre de se respecter complètement. Pour faire une expérience différente du cadre social qui vous apprend quelque chose par rapport à votre conscience, votre liberté. Voilà, je ne dis pas tout parce que c'est important qu'il reste un petit peu de mystère dans le tantra pour que le mental ne s'empare pas de tout l'exercice. Hein. Sinon, il n'y a pas cette partie-là de mystère. Et puis dans certains groupes avancés, il y a la nudité, et ces groupes-là sont avancés au point qu'on va déconditionner le mental aussi avec le corps. Hein, et ces expériences-là ne sont jamais imposées, mais toujours proposées. Et il y a toujours le choix de dire non à cette proposition-là. La sensualité, la sexualité, ce sont des gros paquets pour la plupart des gens. Et donc, déconditionner ça, ça demande vraiment d'avoir fait beaucoup de travail avant. Hein. C'est pour ça que c'est réservé aux groupes avancés. Dans tous les groupes où il y a de la découverte, de l'initiation, ou les petites séquences, il n'y a pas de nudité. Parce que pour la plupart des gens, c'est trop rapide. Hein. Ça va trop directement dans des choses fragiles. Mais en vérité, si vous prenez un petit enfant de 2 ans, bah, il n'a pas honte de son corps. Hein. S'il danse, il est nu ou il n'est pas nu, pour lui, c'est pareil. Hein. C'est aussi conditionné, hein. C'est aussi appris qu'il y avait besoin d'avoir honte, d'être coupable, ou d'être gêné avec le corps. Dans le tantra, on peut ramener de la joie, du naturel, de la beauté dans le corps, qu'il soit habillé ou nu. C'est quelque chose qui peut se déconditionner aussi facilement. Alors, dans les stages de tantra, qu'est-ce que ça inclut? Donc, on peut danser en dehors des périodes de début ou de fin. On peut danser parce que c'est de nature à détendre le corps. On peut avoir des exercices sur des percussions africaines parce que ça incite l'énergie à se mettre en mouvement. On peut utiliser l'instrument de la respiration, hein, parce que c'est très énergétique la respiration. On peut faire des exercices avec le souffle. On peut utiliser des mouvements de corps particuliers, on peut utiliser parfois des massages en conscience, on peut utiliser et jouer avec la sensualité ou l'énergie sexuelle. Tout le corps est sensuel, hein, même les mains sont sensuelles, donc au sens large, on va dire. On peut utiliser des espaces de témoignage avec l'authenticité. On peut utiliser l'expression des énergies masculines et des énergies féminines. Et puis on peut utiliser l'exploration des mouvements d'énergie dans le corps, c'est-à-dire mettre en mouvement une certaine énergie et voir ce qu'elle devient, hein, si ça s'agrandit ou pas. Et puis dans le tantra, il y a la méditation, il y a le recentrage, et il y a aussi des surprises. Des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont réservées à surprendre le mental. Le mental n'a pas une place importante dans le mental. On ne va pas faire des discussions de qui a tort, qui a raison, ça n'a pas d'objet. Mais quand on va dans l'intensité, par exemple, le mental ne suit pas au-delà d'une certaine intensité. Donc pour le mental, c'est ingérable, hein, et donc il se passe des choses dans l'intensité que vous ne connaissez pas quand vous n'y allez pas. Oh, ben ça c'est gentil, merci. Et puis, selon les moments, on pourra être amené à travailler les yeux bandés, on pourra être amené à travailler les yeux ouverts, on pourra être amené à travailler tout seul, on pourra être amené à travailler entre hommes et femmes, on pourra travailler en petits groupes, hein, 3 ou 4, on pourra être amené à travailler tous les hommes ensemble et toutes les femmes ensemble, ou des sous-groupes d'hommes et de femmes séparés, ou aussi en grands groupes. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on fait dans le tantra. On commence toujours par un partage de paroles et on termine toujours par un partage de paroles pour dire comment je commence, merci, comment je commence le groupe et comment je sors du groupe, pour bien faire la différence entre le début et la fin. Hein. L'écart entre le début et la fin est important. Par exemple, si maintenant vous avez conscience des personnes qui sont là autour de vous, est-ce que cette conscience est la même que tout à l'heure, à la première minute où vous êtes entré dans la pièce? Il y a une certaine intimité qui est déjà là et qui progressivement s'installe. Hein. Elle n'est pas forcément visible, elle n'est pas forcément dite, mais il y a une sorte de proximité énergétique qui est là et qui fait qu'on est moins, même sans avoir parlé, on est moins des étrangers les uns pour les autres. C'est ce qui se passe dans un groupe de tantra, mais avec un facteur beaucoup plus important parce qu'il y a le cadre d'autorisation beaucoup plus large. Ce qui fait que l'intimité, elle peut grandir énormément entre le début et la fin d'un groupe, l'intimité ressentie entre les personnes. Petite respiration. S'il y a des choses à dire ou à demander, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je vais proposer cette année, hein, puisque l'année, elle commence en septembre pour moi, c'est l'année scolaire. Il y aura des structures de découverte du tantra. On peut dire que ce soir, c'en est une, hein, puisque vous pouvez venir avec zéro connaissance du tantra. Ça peut se passer l'après-midi, ça peut se passer le soir, ça peut se passer durant toute la journée. La découverte, c'est pour découvrir l'énergie du tantra de manière douce et progressive. Donc, c'est jamais violent, on fait les choses en douceur, et puis je reparle de ma démarche pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, pour situer le cadre, puisqu'il y a des personnes nouvelles à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est découverte. Ce qu'on fait ne requiert pas de grande implication, mais ça peut quand même avoir des effets et vous pouvez ressentir des bénéfices. Après, il y a initiation tantra qui est un tout petit stade au-dessus. Vous pouvez venir directement dans l'initiation ou passer par la découverte. C'est pas des étapes tout à fait formelles, hein. Mais l'initiation, comme son nom l'indique, c'est une plongée un petit peu plus profonde dans l'intimité avec soi. Ça veut dire qu'on va aller se côtoyer soi-même un peu plus profondément, mais c'est quand même ouvert à tous, et c'est pas des choses extrêmement impliquantes. C'est, on va dire, un petit niveau de risque personnel un tout petit peu plus élevé que la découverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la structure est longue, et plus l'intimité avec soi-même peut grandir, hein, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement. La plongée dans l'intimité avec soi, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Lorsque vous vous détendez, lorsque vous avez confiance, il y a une plus grande intimité avec vous-même, et là, vous vous autorisez davantage. Et donc, ça se fait, on est construit comme ça, qu'on s'apprivoise, et plus on est apprivoisé, et plus on peut s'autoriser de choses. Et donc, à la fin d'un groupe de tantra, l'énergie est souvent beaucoup plus présente, l'énergie d'intimité, l'énergie de connexion avec notre naturel, avec la confiance intérieure, est souvent beaucoup plus présente qu'au début. Voilà, et puis vous avez eu pendant 3 heures, 4 heures, 10 heures, des personnes en face de vous qui ont fait des choses impliquantes, qui ont été authentiques, qui ont été belles, qui se sont autorisées des choses que vous avez pas pu vous autoriser, ça vous a porté, voilà. Ça peut vous donner envie aussi, hein, de voir les autres devenir libres. Hein. C'est pour ça que je fais des structures qui sont 3 heures, 4 heures, 6 heures, 10 heures, et puis après, c'est le week-end tout entier. Donc, dans les journées et dans les week-ends, les repas sont sur place, c'est autogéré en termes de nourriture et d'organisation. Ça veut dire que on est tous en auberge espagnole, et puis on amène à manger, on prépare les tables, les chaises, tout ça. On a une vie collective, hein, c'est autogéré dans le sens de l'organisation. Et quand vous êtes en résidentiel, pour l'instant ça se passe ici à Romainville, il y a deux chambres là-haut, et puis le logement se fait ici dans la salle de travail, sur des matelas. Donc le logement est inclus dans l'hébergement et dans votre participation au stage à Romainville. Et même si on ne fait rien pendant la nuit, on dort ici parce qu'il y a cette montée de l'intimité qui fait que le lendemain matin, on est encore plus intime que la veille au soir, même s'il n'y a pas eu de travail spécifique pendant la nuit. Et en dernier, les stages destinés aux couples, parce que le tantra d'origine ne s'adresse pas aux couples. Il s'adresse à l'individu, parce que la conscience dans notre vie humaine, c'est une conscience de couple, d'individu. Hein. Mais dans le couple, bien sûr, on peut augmenter le niveau de conscience porté à l'autre, ou le niveau de conscience qu'on développe ensemble, etc. L'attention qu'on développe. Donc, il y a des groupes destinés aux couples dans lesquels les couples ne se mélangent pas, font toutes les pratiques intimes ensemble. Il y a aussi des pratiques où les hommes sont ensemble ou les femmes ensemble, mais ce n'est pas des pratiques très impliquantes. Hein. Et donc, dans ces stages pour couples, l'accent est mis sur mettre plus de conscience dans la relation de couple et dans la relation sexuelle. Il y a cette orientation spécifique dans le couple. Parce que le couple est une voie d'évolution de conscience importante, c'est comme une autoroute qui accélère l'évolution, alors les individuels ont leur stage pour la conscience individuelle, et ceux qui sont en couple ont aussi leur structure pour développer ou avoir des outils pour rendre la relation sacrée dans le quotidien, avoir des petits rituels ou voir les choses qui plombent le couple dans les peurs, dans les dépendances et tout ça. Donc, c'est un peu plus focalisé sur le relationnel et la liberté et l'aspect conscience et sacré dans le couple. la direction pour les couples, ça sera à terme d'obtenir un noyau de couples suffisant. À partir de 4 couples, c'est faisable, pour faire des stages résidentiels à l'extérieur de sexualité sacrée, selon Barry Long, hein, le fameux livre « Faire l'amour de manière divine ». Voilà, ça sera pour repenser en conscience la relation sexuelle, pour ralentir volontairement son rythme dans la relation sexuelle et pour lâcher les enjeux habituels qui concernent l'excitation et l'orgasme. Et donc, quand il y a moins d'enjeux, il y a plus de conscience parce que les enjeux sont mentaux et le mental fait baisser le niveau de conscience plutôt que l'augmente, hein. Donc, il y a des exercices, il y a des rituels proposés selon ce livre de Barry Long pour se rencontrer sexuellement en invitant le sacré dans la sexualité. Et comme je disais tout à l'heure, essayer d'ouvrir des portails vers des dimensions inconnues qui ne sont pas explorées habituellement dans la sexualité classique. Voilà, mais comme ce sont des groupes qui demandent des réservations de salles, et puis donc financièrement, c'est des enjeux plus importants, il y a besoin d'un noyau de couples qui sont déterminés à y participer, qui s'engagent financièrement aussi pour que ça se fasse, hein. Mais j'ai déjà des lieux et j'ai déjà animé des groupes pareils dans le passé. Alors après, lorsqu'il y a juste 2 ou 3 couples, c'est difficile de le réaliser vraiment, hein, ce stage, parce que c'est compliqué au niveau pratique, hein, de réserver les lieux. Mais il y a un très beau lieu près de Honfleur qui est magnifique, entièrement en bois, nourriture bio, sauna, qui est idéal pour faire ça. Faire cette exploration-là en couple. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire explorer la relation tantrique en couple, dans les stages tantra couple, et vous pouvez aussi, même si vous êtes en couple, explorer la liberté individuelle dans les stages pour individuels, parce que dans un couple, c'est important d'être libre de soi à soi, et c'est ça le sujet, hein, dans les stages pour individuels. Ce qu'on fait avec l'autre n'est jamais dirigé vers l'autre, mais est fait pour gagner plus de liberté pour soi-même. Si vous revenez plus libre, votre partenaire de couple le sentira et vous dira sûrement merci, ou alors aura envie de faire la même chose que vous, hein, c'est-à-dire de devenir plus libre. Donc c'est une voie qui est tout à fait acceptable, même lorsqu'on est en couple, de pouvoir faire une expérience de tantra seul, hein. Et puis si ça déstabilise l'autre, super, hein, il y a des choses à guérir là, il y a des choses à... La longueur de la corde est-elle suffisante? On s'amuse, hein. Voilà, c'est l'essentiel, hein. Non, il y a encore un point, un seul point. Cette année, il y a une nouveauté, et ça a commencé en juillet, c'est qu'il n'y a plus de tarifs fixes. Je l'ai fait d'abord pour moi, pour guérir ma relation à l'argent, parce qu'il y a des aspects négatifs de l'argent dans lesquels je dois payer mon loyer, ça me stresse, je suis en manque... Plus généralement dans l'humanité, il faut que je gagne ma vie, si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas reconnu dans la société. Il y a plein d'aspects négatifs reliés à l'argent, bien qu'il y ait plein d'aspects positifs reliés à l'argent et à l'énergie d'argent, qui sont l'abondance, la générosité, construire des choses. C'est une énergie avec un potentiel énorme, mais elle souffre du pouvoir, elle souffre de la notion du manque, qui sont aussi des conditionnements. Donc j'ai décidé en été, et c'était une expérience très très positive pour moi, d'arrêter les tarifs fixes et de dire aux gens, payez ce que vous voulez. Si vous pensez que vous avez reçu beaucoup, ben donnez davantage. Si vous pensez, si vous n'avez pas de ressources, donnez peu. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez soutenir ce que je fais, et vous voulez qu'il y ait d'autres groupes, et souvent des groupes comme ça, donnez aussi davantage. Le fait que les personnes qui auparavant étaient exclues soient dans les groupes parce qu'il n'y a pas de tarif fixe, ça fait des plus grands groupes, ça fait que ce que les personnes sans ressources ne donnent pas peut être donné par les personnes qui en ont plus ou qui contactent leur générosité. L'expérience que je fais, c'est que c'est extrêmement positif. La plupart des groupes m'ont ramené autant d'argent, sinon plus, qu'avant, quand il y avait un tarif fixe, mais avec une détente beaucoup plus grande pour moi, parce que le contenu de la boîte n'a plus autant d'importance. Hein. Alors qu'avant, je devais remplir les groupes, c'était parfois facteur de stress, ça se pose beaucoup moins. Et puis cette notion de moi qui suis un peu plus aisé dans l'argent, en donnant davantage, je permets à une personne avec solidarité, qui n'a pas d'argent, d'entrer dans les groupes. Parce que ça, c'est un équilibre qui se fait comme ça. C'est parce que vous donnez un petit peu plus que ce que vous donnez davantage d'ordinaire que d'autres personnes peuvent être dans le groupe. Donc, voilà. Et puis, à double sens, la personne qui va donner de l'argent en fonction seulement de la sensation d'avoir reçu va équilibrer le donner et le recevoir qui devraient être les seules énergies juste dans l'argent. Hein. C'est une énergie d'échange, de partage. Et donc, si je donne seulement en fonction du donner et du recevoir, ben, moi aussi, je m'affranchis d'une partie des énergies de manque, des énergies de si j'ai pas d'argent, je suis rien. Là, je peux être sans argent et puis recevoir beaucoup. Et je peux, il peut y avoir beaucoup de cas de figure qui n'impliquent pas toutes ces tensions habituellement relié à l'argent. En même temps, c'est une expérience pour moi. Je la conduis, je l'ai conduit jusqu'à fin août, c'était positif. Je la conduis jusqu'à fin décembre. Si c'est encore positif, ce sera encore plus long hein, pour les prochaines. Je souhaiterais que tout ce qu'on fait dans notre vie soit sur ce modèle, ne serait-ce qu'au niveau des stages. Hein, que ce ne soit plus une question de moyens, que chaque thérapeute puisse faire assez confiance, que l'argent viendra si il lâche son désir d'avidité, d'en avoir beaucoup, ou de manque, ou des choses pas très claires, pas très conscientes avec l'argent. Donc je travaille beaucoup et merci, vous me faites travailler. Puis j'ai décidé aussi d'être avec ça, pour grandir aussi en conscience avec ça. Donc tout à l'heure, quand vous sortirez, il y aura une petite boîte où vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Je n'irai pas contrôler ce que vous mettez. Si vous mettez des espèces, ça sera complètement anonyme. Et donc je vous encourage à mettre des espèces. Si vous mettez un chèque, il faudra bien que je lise le chèque. Donc ça ne sera pas anonyme. Je suis déjà satisfait. Quel que soit le contenu de la boîte. Et ça, pour moi, c'est beaucoup, c'est un avantage vraiment important, très important. C'est terminé.
Tu n'as pas parlé de l'ancrage pour les femmes.
Oui, je n'ai pas parlé de l'ancrage pour les femmes parce que ce n'est pas typiquement du tantra. Hein. Mais c'est vrai que ça figure sur mon site de tantra, comme la respiration active ou le reste, c'est de l'énergétique. Il n'y a pas assez de temps. Ça serait volontiers que j'en parlerais ce soir, mais il n'y a pas assez de temps. Ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'ancrage, allez sur mon site de Tantra, et il y a ça expliqué en détail. L'ancrage à la Terre, hein, comment être plus connecté au monde de la matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Tantra en lui-même, ou sur ce que j'ai dit ou pas dit? Dis-le pour le groupe.
Oui. Sur le niveau des tantras, alors il y a le débutant, il y a l'initiation,
Et après, c'est le tantra directement?
Alors, il y a la découverte, il y a l'initiation, et tous les groupes de, jusqu'à décembre seront pour se découvrir et s'initier. Sachant qu'on peut découvrir plusieurs fois, on peut s'initier plusieurs fois, à chaque fois l'expérience peut grandir, hein, parce que c'est votre niveau de liberté qui va fixer, d'accord? Et puis, au second trimestre de Tantra, c'est-à-dire premier trimestre 2016, j'introduirai des niveaux, hein, c'est-à-dire que ceux qui se sentent à l'aise dans l'initiation pourront participer à des groupes Tantra de niveau 1, et puis progressivement de niveau 2. Voilà. Il y aura à chaque fois un peu plus d'applications, et puis le Tantra avancé, c'est celui dans lequel il y a une telle liberté avec l'esprit, le corps, que vous pouvez prendre beaucoup plus de risques. Hein. Et ça, généralement, c'est après un an de tantra qu'on arrive à se détacher de cette grosse peur que représente soit la nudité, soit le corps, montrer son corps de manière générale. Donc, quand il y a un public suffisant de personnes avancées, j'initie des groupes tantra avancés, hein, qui sont la même chose, mais on ne commence pas par l'apéritif, on commence par le plat principal, directement.
Non, mais après, il y a des niveaux 1, 2, 3...
Avant l'avancée, oui. L'avancée, c'est le dernier. Hein. Avant, il y a niveau 1 et 2 qui suivent découverte et initiation. Donc, la plupart du temps, quand vous venez vous inscrire à un niveau 1, il faut d'abord avoir été dans un niveau initiation pour que ça soit progressif. Hein. Et ça, donc, il y en aura toujours des stages d'initiation pour que les débutants puissent aussi commencer par le début.
Et en durée, ça évolue?
Il y a des durées fixes. Hein. Les soirées du jeudi se passent généralement à Paris, 19h30, 22h30, donc c'est 3 heures de tantra. Après, il y a des groupes qui durent une après-midi complète, 15h, 20h, 5 heures de tantra. Ça peut se passer ici, à Romainville, ou sur Paris 20e. Après, les journées, c'est 10h, 20h. Ici ou à Paris. Cette année, j'ai fait les deux, Paris et Romainville, pour que ça soit plus commode pour vous, si c'est Paris ou si c'est là, ça peut changer. Et puis le week-end, c'est samedi 10h au dimanche 20h. On continue sur place.
Pour l'initiation
aussi. Oui, le week-end. Il y a un week-end le 21 novembre, ça sera un week-end pour s'initier. Mais c'est évident qu'à la fin du week-end, vous ne serez plus au niveau découverte ni initié. Hein. Vous serez peut-être au niveau 1 ou au niveau 2, parce qu'il y a du temps, il y a assez de temps. Autre chose à dire, à demander?
Si j'ai bien compris la séance, il n'y a pas besoin de lire.
Ah non. Moins vous lisez, mieux c'est. Hein. Même si Osho, paradoxalement, il a généré plus de 700 livres. Mais ce ne sont que les retranscriptions de ses conférences. C'est l'auteur le plus prolixe au monde. Mais il ne les a pas écrits lui-même. C'est des mots qu'il a dit, mais ça ressemble à un livre. Quand vous les lisez, ça a la consistance d'un livre. C'est très, très profond. Ceux qui ne savent pas, qui ont envie de lire pour savoir l'énergie d'Osho, ça peut être intéressant aussi. Il y a un livre qui s'appelle « Le livre des secrets » avec lequel ça peut être intéressant de commencer, qui commente les 112 préceptes dont j'ai parlé au tout début, qui commente le Vijnana Bhairava Tantra, et commente les 10 premiers préceptes, et il le fait d'une manière très abordable, parce que les préceptes à l'état brut, hein, c'est un peu difficile à lire.
Est-ce que
vous
choisissez la personne qui est
derrière? C'est lui, oui, oui. Ça. Il est plus vivant, hein, au show. Il est mort depuis...
En
90, c'est lui. En 90, ouais, c'est ça.
Et il y a des vidéos sur YouTube, c'est en anglais, mais il y a des vidéos, en fait, de ces...
Oui. D'autres questions avant qu'on passe à l'exercice? Donc l'exercice que vous allez vivre ici, ça va être un exercice qui pourrait être dans une soirée découverte, hein, et qui d'ailleurs a été dans une soirée découverte. Il se peut que vous le connaissiez déjà, pour ceux qui ont pratiqué le tantra avec moi, ça n'a pas d'importance, parce que vous le ferez toujours différemment. Hein. Il va inclure le bandeau, et il va se passer en plusieurs phases, et... il n'y a que la première phase que je vais vous dire maintenant, parce que le reste sera une surprise pour le mental. Mais ce ne sera pas méchant non plus. Hein. Vous imaginez bien. Donc, dans la première phase, vous aurez les yeux bandés. Hein, vous vous banderez tous les yeux. Il y aura une petite musique de fond dans la pièce. Et puis, vous allez vous imaginer être une île dans l'océan, hein, isolée des autres. Et vous allez marcher très très lentement. Vous aurez les mains, paumes vers l'avant, les bras tendus. Et vous marchez tellement lentement que si vous entrez dans un mur, vous entrez dans un mur lentement. Ça fait pas mal. Et si vous rencontrez une personne, vous rencontrez une personne... sans lui faire mal, d'accord ? C'est tellement lent que vous voyez un mur, ah, bon, vous faites demi-tour et vous continuez votre exploration, parce qu'il y avait un mur, ou il y avait un obstacle. Et quand il y a une personne, vous vous détournez de la personne, c'est-à-dire, ah, j'ai touché un bras, j'évite la personne. Je suis une île isolée dans l'océan, c'est-à-dire, j'ai pas... Il y a toujours l'océan qui va me séparer des autres, hein, dans cette partie de l'exercice. D'accord ? Vous allez sentir ce que c'est que, malgré les autres îles qui parfois sont perceptibles, ce que c'est que d'être isolé. Hein, c'est une partie qui, dont le but sert à vous faire ressentir ce que c'est qu'une île isolée des autres îles dans l'océan. Ça va durer à peu près 5-10 minutes. Hein, et puis après, il y aura une seconde phase dont je vous laisserai la surprise. Ok ? Donc, si vous n'avez pas de bandeau, je peux vous en prêter un. Hein, dans ce cas, venez me voir et recevez aussi votre gage tantrique, parce que c'était indiqué dans les détails pratiques. C'est important de jouer le jeu, c'est-à-dire de ne pas soulever le bandeau, parce que la notion de confiance est importante dans cet exercice. Hein. Donc, choisissez un bandeau qui n'est pas transparent et choisissez un bandeau qui vous couvre complètement les yeux. Si jamais il y a un problème avec quoi que ce soit, au lieu de soulever le bandeau, vous levez la main et vous gardez la main levée et je viendrai vers vous. Mais vous attendez que je vous voie, parce qu'on est nombreux, hein. Si vous jouez le jeu, vous jouez le jeu aussi des bénéfices, hein, parce que quand vous vous méfiez, quand vous êtes sur vos gardes et que vous soulevez le bandeau, et ben vous ne vous laissez pas surprendre. Vous ne laissez pas les bénéfices arriver d'eux-mêmes. D'accord ? Voilà, ce n'est pas une punition, hein, que d'avoir un bandeau, c'est juste une invitation à ce que vos sens soient en alerte. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement. Tous les auditeurs qui veulent expérimenter l'exercice, venez au groupe de Tantra.